chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Avec moi dans le studio, David Massomo de l'ONG congolaise Mavuno, qui forme des communautés dans le domaine de l'agriculture et permet notamment aux familles de créer des entreprises dans l'agroalimentaire dans l'est de la RDC. David Massomo, vous êtes cofondateur et directeur général de l'association Mavuno à Beni. Et vous êtes venu nous rendre visite aux États-Unis, à Washington. Merci beaucoup pour cette visite.
Merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre studio.
Alors, on va parler de l'agriculture et des femmes. Donc, votre association permet à des femmes d'avoir accès à des petits lopins de terre dans les alentours de Beni. À toute personne, en fait. Ce ne sont pas que les femmes, mais vous avez une majorité de femmes.
Oui. En effet, Mavuno, c'est une organisation non gouvernementale qui travaille à Beni, au nord Kivu, à l'est de la RDC. Et nous avons comme mission de développer un leadership local pour mettre fin à l'extrême pauvreté. Alors, ce que nous faisons principalement, c'est organiser les communautés en organisation de base. Et nous essayons de les former en pratique agricole. Et nous leur donnons accès à la terre, nous donnons accès aux semences, aux outils agricoles et même nous donnons accès au marché. Alors, si on peut parler un peu de l'accès à la terre, vous savez, en Afrique, le conflit foncier, c'est un conflit vraiment très développé et ce sont des cas vraiment qui sont répétitifs. Alors, les femmes aussi ont des problèmes d'accès à la terre. Parce que les terres, souvent, dans des lieux comme chez nous, sont souvent très éloignées. Parce que les terres aux alentours des villages sont à la possession des riches qui sont dans les villes. Alors, ce que nous faisons, c'est négocier avec les propriétaires des terres s'ils peuvent disponibiliser leurs terres pour que nous puissions donner ces terres aux villageois et principalement aux femmes qui sont souvent obligées de travailler juste au village pour ne pas aller très loin du village à cause des insécurités et d'autres dangers. Et puis à cause de leurs responsabilités que les femmes ont des enfants et du ménage.
Donc c'est ce qui fait que vous avez plus de demandes féminines finalement parce que si c'est pas très loin de la maison, ça les intéresse vraiment.
Exactement,
c'est plus rassurant.
Exactement. Parce que depuis qu'on a commencé, parce qu'on a commencé en 2015 jusqu'à aujourd'hui, le pourcentage de femmes est toujours au-dessus de 60%.
Et quel type d'agriculture alors, en général ?
Alors, en général, nous travaillons avec tout le monde et sauf souvent ils choisissent les cultures, mais nous sommes dans les légumes, donc la culture maraîchère et les cultures vivrières. Et nous avons beaucoup de gens qui cultivent le chou, les tomates, les aubergines. Nous avons ceux qui cultivent le riz, le maïs et le spinach.
Les épinards.
Les épinards, voilà. Même les poivrons. En fait, on entre vraiment dans la diversité des cultures.
Est-ce que c'est chaque famille qui a son petit lopin de terre ou est-ce qu'on a aussi des regroupements de personnes, de petites coopératives ou pas ?
Alors, ils sont regroupés, comme vous l'avez dit, en coopérative ou en association, mais chacun possède quand même son lopin de terre. C'est-à-dire chacun gère, parce que ce sont des ménages. Tu peux venir avec tes enfants et tu peux venir avec ton épouse ou les gens qui habitent chez toi pour travailler dans son lopin de terre. Donc, chaque ménage, en fait, à un lopin de terre, mais ils sont regroupés pour des formations. Nous les regroupons dans une association, une coopérative. Comme
alors, l'objectif, c'est l'autosuffisance, l'auto-alimentation, mais est-ce que cela aussi peut leur permettre, à moyen terme ou long terme, d'avoir des petites entreprises agricoles et de pouvoir commercialiser aussi?
Effectivement, nous avons, parce que nous avons, depuis que nous avons commencé, il y a deux paysans qui ont évolué dans ce sens. Ils ont commencé juste à cultiver, mais il y a d'autres qui arrivent même à employer d'autres. Il y a par exemple un qui emploie 50 personnes dans son champ maintenant et qui les paye. Et d'autres, et ceux-là aussi, après une saison, ils vont aussi employer 12 ou 20 personnes. Il y a d'autres aussi, avec les revenus, surtout les femmes, les revenus qu'ils gagnent dans l'agriculture, ils essaient d'investir dans autre chose, par exemple dans la vente des habits ou la vente de poissons. D'autres même s'achètent des petits moulins pour moudre le maïs ou le manioc. Ouais, donc ça crée quand même une certaine économie dans les villages. Donc le revenu qu'ils gagnent gagne dans l'agriculture est réinvesti dans d'autres activités et d'autres améliorent leur habitat ou alors ils payent les frais scolaires pour leurs enfants ou les frais de soins de santé, tout ça en fait.
Les femmes en particulier, quel type d'activités font-elles dans l'agriculture ?
Je dirais que les femmes aussi participent à toutes les procédures de l'agriculture, c'est-à-dire de le labour ou le sarclage, la transplantation ou la préparation de pépinières, même jusqu'à la récolte et même jusqu'à la vente. Souvent aussi, à la vente, elles sont aussi là. Donc, elles sont vraiment présentes sur tous les points et à tous les niveaux.
On a remarqué en Afrique que l'agriculture tendait à disparaître d'une certaine manière. On parle beaucoup de l'exode rural. Et la jeunesse dans tout ça, la jeunesse visiblement qui, comme un petit peu partout dans le monde, ne veut plus se lancer dans l'agriculture. Mmh. Est-ce que vous incitez les jeunes à se lancer dans l'agriculture ?
Oui, en fait, nous connaissons aussi ce problème parce que la jeunesse, comme vous venez de le dire, n'est pas vraiment impliquée. Jusque-là, ce n'est pas un modèle de succès qui inspire la jeunesse. Alors, nous sommes en train de travailler sur comment est-ce que les paysans ou les agriculteurs avec lesquels nous sommes en train de travailler vont être un modèle pour la jeunesse, pour que la jeunesse aussi puisse considérer l'agriculture comme un travail ou alors une activité rentable. Alors c'est vraiment un problème, c'est vrai, la jeunesse a besoin d'une inspiration, a besoin d'un modèle. Et à un certain moment, l'agriculture n'a pas été vraiment un modèle à suivre. Les agriculteurs n'ont pas donné un modèle de succès que la jeunesse pouvait suivre. Mais nous sommes en train de travailler dans ce sens. On voudrait faire de notre mieux que l'agriculture soit attrayante pour les jeunes.
Moderne.
C'est exactement.
Et leur donne
ça.
Envie de rester au village.
Oui.
Qui est une qualité de vie extraordinaire du reste.
Oui.
Mieux qu'en ville.
Mieux qu'en ville, bien sûr. Et ils deviennent, parce qu'au village, ils deviennent entrepreneurs, parce que l'agriculture, ils ont l'habitude de voir l'agriculture de subsistance. Nous sommes en train de leur apprendre comment considérer l'agriculture comme une entreprise. Nous sommes en train de les former à être agribusinessmen.
Vous avez un point à ajouter sur les femmes et l'agriculture en Afrique ?
Les femmes sont, je dirais, la base même de l'économie rurale. C'est vraiment le fondement de l'économie rurale. Parce que la femme est une bonne gestionnaire, non pas seulement du foyer, même de finances. Et avec l'expérience que nous avons dans nos activités, nous avons compris que si nous investissons dans la femme, nous sommes ceux qui ont un retour. Parce que la femme prend soin et des enfants, prend soin du foyer, n'a pas d'autres dépenses que les hommes ont souvent quand ils ont de l'argent. Donc quand l'argent entre entre les mains de la femme, on sait que ça va servir le ménage. Quelque chose qui me vient en tête, c'est la façon dont nous avons vu nos activités donner du poids aux femmes dans leur foyer. Parce que nous avons compris que l'homme aussi, quand il voit la femme venir avec un revenu qui est en train de supporter la famille, ça lui donne aussi du poids. En fait, la femme a un poids et nous sommes en train de voir le mari accompagner la femme. Ça crée une certaine harmonie dans le foyer et ça nous
une
encourage.
Une certaine fierté aussi.
Une certaine fierté.
Elle est fière de son épouse.
Oui, et la femme aussi est fière parce qu'elle amène quelque chose à la maison.
David Massomo, directeur de Mavuno à Beni, dans le Nord Kivu, en RDC. Merci beaucoup.
À très bientôt.
Parole de femme.
Au Sénégal, le centre de formation pour enseignants et coaching parental à Dakar, dénommé Ma Famille Créative, est l'initiateur du salon du jouet éducatif et notamment de la poupée noire qui vise à optimiser l'éducation des enfants africains. Notre correspondant Seydina Abagaye a rencontré la créatrice de cette poupée 100% africaine.
Le concept de la poupée noire a été lancé au Sénégal par Ituma Seba. Cette citoyenne de l'Afrique veut éviter que les enfants grandissent dans la confusion totale de leur propre identité. Pour elle, jouer avec une poupée blanche crée des complexes qui, plus tard, auront des conséquences désastreuses chez les enfants africains.
On ne peut pas éduquer un enfant en lui présentant une image qui est totalement contraire à ce que l'enfant voit dans le miroir. Donc, on s'est rendu compte que le marché de la poupée noire était un marché un peu rare, existant en Afrique, mais un peu rare. Donc, les parents avaient peu accès à la poupée noire. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on apporte cet élément dans le jeu des enfants.
Pour valoriser les capacités des enfants africains, la structure Ma Famille Créative veut aussi promouvoir le jeu éducatif avec des objets traditionnels. Khadim Rasoul Nying, inspecteur de l'enseignement élémentaire et ancien directeur du Centre de formation pédagogique de Dakar, affirme que le jeu permet à l'enfant d'assimiler certaines connaissances scientifiques.
Le jeu a une valeur éducative considérable. Il est une saine gymnastique de l'esprit. En jouant, l'enfant certes joue, mais il pense, il réfléchit, il analyse, il fait des synthèses. L'analyse et la synthèse, ce sont les deux corollaires qui nous permettent de mesurer l'intelligence d'un enfant. Et en jouant, l'enfant certes s'amuse, mais il travaille. C'est maintenant qu'on s'est rendu compte que le jeu n'est pas une chose frivole.
Le jeu éducatif et la poupée noire ont aussi pour but d'aider les parents dans l'éducation de leurs enfants. Sandrine est parent d'élève. Elle estime que la poupée noire permet aux enfants de mieux accepter leur culture.
L'impact, il est flagrant. Il est flagrant parce que quand j'ai donné pour la première fois une poupée à ma fille, une poupée noire, c'était l'occasion de, justement, en parlant avec elle, de l'aider à aimer ses cheveux crépus, parce que ça permet à l'enfant de s'aimer lui-même. Donc c'est important pour sa propre perception de sa culture et de son identité.
La structure Ma Famille Créative a pour principal objectif de faire la promotion de l'éducation bienveillante et créative en famille d'une part, mais également en formant les enseignants et parents à des méthodes appropriées. Les promoteurs comptent multiplier cette aventure dans toute l'Afrique. Ils veulent que l'idée séduise ici au Sénégal et partout en Afrique noire pour que les enfants ne grandissent pas dans la confusion totale de leur identité. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Confrontés au chômage et au sous-emploi, de nombreux jeunes béninois décident de prendre leur destin en main en se lançant dans l'entrepreneuriat, tandis que d'autres hésitent encore malgré les modèles de réussite. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé, a rencontré certains de ces entrepreneurs. Voici son reportage.
60% de la population béninoise est constituée de jeunes et c'est cette frange qui subit de plein fouet les affres du chômage et du sous-emploi. Selon les estimations de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, sur le marché, on dénombre plus de 2 750 000 jeunes qui sont au chômage. Et le nombre de dossiers de candidature au dernier concours d'entrée dans la fonction publique est évocateur. Environ 7 000 candidats pour 25 postes à pourvoir. Certains comprennent déjà l'importance de sortir de l'université avec un plan de secours.
C'est que tout employé, il ne faut pas attendre l'État. L'État ne veut pas réagir. Pour ne pas tomber dans le chômage. Ici que je suis en train d'étudier, je dois au moins faire quelque chose pour le moment, même si c'est vendre quelque chose en attendant. Je vais faire ça d'abord.
Des jeunes entrepreneurs qui sont partis de rien pour se faire un nom, le Bénin en compte à foison. Surtout depuis que l'ambassade des États-Unis au Bénin s'est vêtue à former les jeunes à se prendre en charge autrement. C'est le cas de Jean-Philippe Oussou, qui après ses études à New York et Boston est revenu au Bénin créer un système de lavage express de voitures.
Très tôt déjà dans le système américain, spécialement à New York, j'ai été rodé à un rythme où j'ai eu un certain rythme de travail très intensif. Et aujourd'hui, rentrer en Afrique, c'est surtout la création de jobs, la création de valeur ajoutée et prouver que nous, Africains, nous sommes capables de faire des choses. Donc aujourd'hui, nous pouvons faire rêver la population africaine, nous pouvons faire rêver l'Afrique, nous pouvons démontrer que l'Afrique, ça bouge.
C'est vrai, nous avons tous nos problèmes, mais nous sommes aussi la solution.
Partie de rien, n'avoir que la soif de réussir à donner du travail à d'autres jeunes. Les femmes aussi savent le faire. Mabel Adekambi est l'une de ces béninoises qui a su s'imposer dans le monde de l'auto-entrepreneuriat. Elle est la promotrice d'une marque de liqueur qui s'arrache aujourd'hui sur le marché. C'est le choix qui s'est imposé à elle après ses études en France.
Quand on arrive au Bénin, on se rend compte que tout est à faire et je me suis lancée ainsi dans l'entrepreneuriat. Le bouche à oreille a tellement bien fonctionné que je suis surprise qu'un produit à la base fait pour être dégusté à la maison entre amis se transforme en une entreprise aujourd'hui. Et oui, on arrive à payer des salaires avec ça, on arrive à créer de l'emploi et derrière tout ça, on arrive à assurer une vente à des producteurs de solabilis qui sont à l'intérieur du pays.
Malheureusement, tout le monde ne réussit pas à s'imposer sur le marché de l'auto-entrepreneuriat. C'est ainsi pique en s'y frottant. Pour Eric Wadaini, coach en développement personnel, le manque de stratégie est l'une des causes. Pour lui qui reste un pur produit du système américain, on peut créer son entreprise avec rien d'autre que de la bonne stratégie.
La première des choses, il faut définir la vision. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je prévois être dans 5 ans? Qu'est-ce que je prévois être dans 10 ans? La deuxième chose, c'est d'avoir l'attitude et le comportement de celui qui veut aller vers l'objectif défini. L'argent est une énergie contagieuse et nos actes, d'accord, sont des conséquences de nos émotions.
Même avec de la bonne stratégie, d'autres hésitent à faire le saut dans l'inconnu sans un minimum de capital. Pour Robert Ngoloyin, qui inscrit depuis peu son nom dans le livre des jeunes pisciculteurs les plus en vue au Bénin, il s'agit de partir de peu de moyens pour réaliser de grandes choses.
Pour moi, il ne faut pas de grands moyens pour faire de grandes choses. Il suffit forcément que vous ayez une idée claire de votre destination. À petit coup, vous pouvez vous y mettre à la chose et quitte à après passer dans une logique de réinvestissement et aller beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas de naître grand, mais il s'agit plutôt de commencer petit et de devenir grand.
Aujourd'hui, l'État est conscient du poids de l'auto-entrepreneuriat dans la réduction du chômage au Bénin et s'implique avec le concours de l'ambassade des États-Unis au Bénin dans le financement des jeunes à travers divers programmes. De Cotonou, Ginette Fleur Attendé pour VOA Afrique.
Et oui, et si la jeunesse pouvait?
Il en est de même pour la jeunesse congolaise, notamment à Kinshasa, qui se lance dans l'entrepreneuriat, non sans rêver de bâtir de grandes sociétés. Mais de telles ambitions se heurtent fréquemment au manque d'accès au crédit bancaire, comme l'explique Patrick Abega dans son reportage.
Ils sont nombreux, ces jeunes de Kinshasa, qui se sont lancés dans les affaires. Sans grand moyen financier, ils ont pris les risques de tout investir. Ils évoluent dans différents domaines, comme les transports, l'informatique ou même les boissons alcoolisées. Partis sans gros budget, ils ont espéré obtenir des crédits des banques. Mais ces institutions n'ont jamais répondu à leur demande de crédit pour financer leurs affaires. Selon certains, les banques se désintéressent des entreprises fondées par les jeunes car elles sont jugées moins rentables.
Les entreprises ont besoin déjà d'un projet qui est déjà bien établi, un projet qui est déjà sur papier et qui a déjà une rentabilité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crédit bancaire ici au Congo. Qu'ils nous fassent confiance pour leur crédit. Qu'ils fassent confiance beaucoup plus à nous les start-upers. Car si une banque X fait confiance à une entreprise Y, à partir du zéro, on peut augmenter peut-être nos rentabilités.
Pour les banques, il est difficile d'octroyer des crédits aux jeunes entrepreneurs pour multiples raisons.
La difficulté pour l'octroi des crédits aux jeunes entrepreneurs vient du fait qu'ils ont des projets qui ne sont pas rentables et ils n'ont pas souvent beaucoup d'expérience en la matière et aussi ils n'ont pas de garantie solide pour soutenir leur demande de crédit.
Bien que cela soit une réalité, investir avec ses maigres moyens est un calvaire de tous les jours. Pour Ruth, vendeuse de cocktails et entrepreneur de Kinshasa, sans crédit bancaire, les projets innovateurs des jeunes dans le business sont appelés à disparaître.
Mon plus grand regret est que les banques ne donnent pas les crédits bancaires aux jeunes entrepreneurs. Malgré nos demandes, malgré tout ce qu'on a eu à faire pour avoir cette chance-là, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une bonne réponse quoi, jusque-là. Avec cet allure, en tout cas, nos rêves ne vont jamais se réaliser. Nos rêves vont disparaître.
Faute d'accès au crédit, les rêves des jeunes entrepreneurs sont étouffés en RDC. L'auto-emploi semble pourtant un enjeu capital dans ces pays où plus de 65% de la population a moins de 25 ans, principalement à Kinshasa, où le taux de chômage des jeunes avoisine 75%.
parenthèse. Selon une décision du ministère de l'enseignement secondaire au Burundi, les jeunes filles enceintes ne seront plus admises en classe. Elles devront s'inscrire dans une école des métiers ou suivre une formation professionnelle. Idem pour les futurs papas, nous dit notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Une circulaire du ministère de l'enseignement secondaire et technique indique que toute fille a été victime de grossesse ou contrainte au mariage étant au niveau du fondamental ou post-fondamental, de même que les garçons futurs papas n'ont plus le droit de réintégrer le système éducatif formel public ou privé. La même circulaire précise toutefois qu'ils sont autorisés de fréquenter l'enseignement des métiers ou de suivre la formation professionnelle. Cette décision de la ministre Geneviève Nairaja cause un tollé général parmi de nombreuses organisations qui défendent les droits des femmes et des enfants. Ce père de trois enfants, dont deux étudient à l'école fondamentale, Jean-Marie Ndouayo, ne comprend pas les bienfaits de cette mesure gouvernementale.
Le risque, c'est que les garçons qui vont engrosser ces jeunes filles pourront refuser, qui ne sont pas responsables. Il y a les familles qui espéraient une vie meilleure. Les enfants ne vont pas du tout continuer leurs études, alors que les parents ont financé leurs études. Trois, il y a des jeunes filles qui deviendront des professionnels de sexe. C'est toujours la perte chez la jeune demoiselle.
Pour le président de la Fédération nationale pour la défense des droits des enfants au Burundi, cette décision est inopportune, pénalisant ainsi les victimes. Jacques Chimirimana.
C'est une décision qui est contraire à différents textes nationaux et internationaux qui prônent les droits de l'enfant. En 2016, nous avons dénombré plus de 800 élèves qui sont tombés enceintes. En 2017, nous avons dénombré plus de 1720 écolières et élèves du fondamental et du post-fondamental qui sont tombés enceintes. Et nous avons recommandé de prendre des mesures, des dispositions nécessaires pour décourager ce comportement. Plutôt, il fallait alourdir les sanctions en droit de ces enseignants qui engrossent les élèves au lieu de victimiser davantage les victimes des grossesses non désirées.
Juma Edouard est porte-parole du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Il positive en affirmant que ces enfants pourront étudier après un temps de repos allant jusqu'à 2 ans.
Le fait que ces élèves peuvent être réintégrés dans l'enseignement professionnel, je crois qu'il ne faut vraiment pas négativer ça. Il ne faut pas le négativer, c'est positiver plutôt, parce que là, ça donne plus d'opportunités, plus de possibilités aux élèves concernés de pouvoir s'épanouir davantage qu'à travers des filières traditionnelles d'enseignement général. On n'a aucune obligation de venir étudier après la grossesse, celles qui voudront bien reprendre, l'opportunité leur est offerte.
Cette décision entrera en vigueur à partir de l'année scolaire 2018-2019, mais plusieurs ONG locales et internationales dénoncent quotidiennement une mesure gouvernementale qui pénalise les victimes jeunes demoiselles. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Voilà pour le monde au féminin de VOA Afrique. Je remercie Fredner Kayemit et Wagner Robert à la production, ainsi que nos correspondants sur le continent africain. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel, juste après les nouvelles. Vous pouvez aussi consulter nos articles, vidéos, interviews et autres éditions dans la rubrique LMF sur notre site internet voaafrique.com. Cliquez sur Radio Le Monde au Féminin et vous y êtes. On reste en contact. À très bientôt.
Arrête.